réplique, l'extrême droite, fantasme ou réalité, avec Mathieu Boccoté et Jean-Yves Camus. Depuis que j'ai choisi le titre de cette émission, un nouveau label est apparu dans l'espace public. L'ultra-droite. C'est à l'ultra-droite que les médias ont unanimement imputé les manifestations qui se sont déroulées après le drame de Crépol, à Romans-sur-Isère, à Lyon ou à Paris. C'est en tant que groupe d'ultra-droite que la division Charles Martel a été dissoute par le ministre de l'Intérieur. Nous commençons donc par là, avec mes invités, Jean-Yves Camus, qui dirige l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès, et Mathieu Boccoté, spécialiste de sociologie politique, qui vient de publier « Le totalitarisme sans le goulag ». Quelle réalité recouvre exactement le concept d'ultra-droite, Jean-Yves Camus?
Le terme ultra-droite n'est pas un terme scientifique, c'est une catégorie policière, une catégorie du monde du renseignement, qui a été échafaudée après la disparition des anciens renseignements généraux, ce service de police intérieure qui avait le droit de surveiller les partis politiques. Et puis, il les a surveillés d'un peu trop près. Il y a eu un certain nombre de scandales qui ont amené, au milieu des années 90, à une refonte complète de nos services de sécurité intérieure. Les renseignements généraux ont perdu le droit d'espionner les partis politiques, ce qui me paraît de bonne règle. Et il a fallu alors échafauder une catégorie pour nommer cette partie de, guillemets, l'extrême droite, qui pourrait encore être suivie par le renseignement au motif qu'elle pose un danger pour l'État, pour les institutions, pour la République. Et c'est devenu l'ultra-droite. C'est-à-dire non pas finalement ce qui est ultra de l'autre côté, au-delà de la droite, mais ce qui est au-delà de l'extrême droite que représentait alors le Front National et que représente aujourd'hui, pour beaucoup d'observateurs, pas tous, le Rassemblement National et éventuellement, ça n'est pas mon avis, Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Donc c'est ce qui est ultra, ce qui est au-delà du spectre politique démocratique qui cherche à conquérir le pouvoir par les élections et d'ailleurs par parallélisme, les médias parlent aussi et le renseignement parle aussi d'ultra-gauche.
Oui, mais alors, dans un entretien que vous avez donné au Figaro, Jean-Yves Camus, vous dites que l'État redoute le scénario où, après un incident majeur, il y ait des actes de violence perpétrés dans les quartiers sensibles contre la communauté musulmane. Est-ce que cette crainte vous paraît justifiée? Vous dites aussi que l'ultra-droite ne regroupe pas plus de 3000 personnes, mais que ces 3000 personnes, rêvant d'en découdre, peuvent être dangereuses et causer beaucoup de problèmes.
Alors, je reprends sur le premier point ce que disait Patrick Calvar, alors directeur général de la Sécurité intérieure, qui était auditionné par l'Assemblée nationale, c'était en 2016, sur l'action du renseignement après les attentats de l'année 2015. Et Patrick Calvar expliquait, c'est le renseignement qui parle là, qu'il redoutait un scénario où, après un attentat islamiste massif, des militants de ce qu'il appelait déjà l'ultra-droite fomenterait une sorte d'attentat réplique qui lui-même serait éventuellement suivi d'un autre attentat islamiste et ainsi de suite dans une sorte de scénario d'emballement. J'ai eu tendance à penser à la lecture de sa déclaration qu'étant le directeur du principal service de renseignement intérieur de mon pays, il avait dans sa sacoche quelques billes pour affirmer cela. Depuis, on a vu, nous dit le ministre de l'Intérieur, 10 complots d'ultra-droite déjoués depuis 2017. Mais quand on regarde les comptes rendus d'audience, on s'aperçoit que si l'on a effectivement des gens qui avaient échafaudé des plans, il n'y avait guère de commencement d'exécution de la menace. On a donc des gens qui font des recherches sur Internet, qui font éventuellement des repérages, dont certains ont chez eux des armes qui ne sont pas déclarées. Mais enfin, on n'a pas, et ça c'est absolument fondamental, on n'a pas le même niveau de menace et le même niveau d'exécution de la menace qu'avec l'islam radical. On en est extrêmement loin. D'un côté, on a pratiquement chaque mois, nous dit le ministère de l'Intérieur, un projet d'attentat émanant de la mouvance islamiste radicale qui est déjoué. Et en plus, malheureusement, de ceux qui sont déjoués, il y a ceux qui se produisent. Et du côté de l'ultra-droite, on a des velléités qui sont réelles. Sur le second point, toujours d'après le renseignement, il y a des gens qui, effectivement, à l'ultra-droite, ont envie de passer à l'action. Alors, le renseignement ne raisonne pas comme les universitaires. Voyez, il essaye, évidemment, de prévenir, de circonscrire la menace le plus en amont possible. Il n'est pas impossible, c'est pas un scénario totalement invraisemblable, qu'un individu, éventuellement agissant seul, décide un jour de commettre un attentat contre des musulmans. Mais, à l'heure actuelle, la menace sur la France, la menace sur l'Europe, elle émane principalement de l'islam radical.
Mathieu Bocoté.
Alors, si par le concept d'ultra-droite, j'en vois les usages politiques en ce moment, si par ce concept on cherche à désigner l'existence d'une mouvance nationaliste révolutionnaire, pour reprendre le vocabulaire ennemi, qui existerait et qui croirait à l'action directe dans les rues, une mouvance qui goûterait au théâtre de la politique insurrectionnelle, elle existe, elle est groupusculaire, elle représente très peu de choses. Ce que je constate, cela dit, c'est que ce concept est réapparu dans l'espace public, donc il a quitté le domaine des renseignements pour entrer dans le domaine du langage politique et médiatique, pour disqualifier tout ce qu'on appellera beaucoup plus largement la mouvance dite identitaire. La mouvance dite identitaire qui veut se mobiliser sur le mode de la mobilisation populaire, mais dans les règles du droit, c'est important de le dire. Donc on peut penser à Génération Identitaire, on peut penser à d'autres groupes comme ceux-là, certains... très certainement infréquentables, et d'autres qui le sont peut-être moins. Donc, et pour frapper d'interdiction juridique cette mouvance dite identitaire. Et ce que je note, c'est que l'usage du concept a très rapidement eu une espèce d'effet domino. Très récemment, Olivier Véran dit « L'ultra-droite, c'est une idéologie illégale ». Il le dit comme tel, et précise ensuite pourquoi. Il dit « raciste, antisémite, faites la liste ». Sacha Houlier, qui est une figure importante de la majorité, dit « l'ultra-droite, non, l'extrême-droite, le Rassemblement national, ce n'est que la vitrine policée de l'ultra-droite ». Donc là, très rapidement, dans une espèce d'effet domino, on nous dit « l'ultra-droite, eh bien, c'est la mouvance dite identitaire, qui en elle-même est illégale, et le RN, ou Reconquête et tout ça, ne serait que la vitrine policée de cette idéologie, donc il y a une tentation ». Dans les faits, de pénaliser, de disqualifier, non plus seulement moralement ou médiatiquement, mais juridiquement, tout courant qui remet en question aujourd'hui l'immigration massive ou ce qu'on pourrait appeler l'islamisation de la France. Donc ce concept en lui-même a très rapidement perdu sa fonction descriptive pour parler de cette mouvance insurrectionnelle potentielle nationale révolutionnaire dans les rues, pour en venir à vouloir frapper d'interdit toute remise en question de l'immigration massive.
Cette volonté de frapper d'interdit, elle précède de beaucoup dans la chronologie les événements de Crépole et même l'arrivée sur le marché politique du label identitaire qui date de 1995 et du début des années 2000. Au fond, la question, c'est de savoir si jamais il n'y a pas toujours dans la tête d'un certain nombre de responsables politiques cette idée qui est apparue après la Seconde Guerre mondiale qu'il faut, je cite, « éradiquer la peste brune ». Alors, on peut évidemment s'interroger sur la définition de la peste brune, qui chez certains militants est extrêmement vaste. Hein. Mais ce qui me gêne surtout, c'est éradiquer, voyez-vous. Parce que on n'éradique pas une idéologie. On peut la considérer comme une pathologie sociale, qui existe à l'état latent ou à l'état ouvert dans une société, qui reste effectivement groupusculaire. Mais c'est précisément la force de la démocratie libérale que de tolérer qu'elle s'exprime. Et de n'édicter d'interdiction que dans le cas ultime où il y a danger pour la sécurité de l'État, danger avéré et imminent pour la sécurité de l'État. Mais la cause de tout ce mal, la cause de tous ces usages polémiques et des termes ultra-droite et du terme d'ailleurs extrême-droite, c'est cette idée qui est vraiment née de la Seconde Guerre mondiale, que nous avions connu le pire de l'histoire et que pour ne pas y retomber, il fallait éradiquer. Or, quoi qu'on veuille éradiquer, un groupe national, un groupe ethnique, religieux ou une idéologie, bah, c'est le totalitarisme qui est au bout.
Mais tu peux écouter, j'interviendrai après.
Je crois qu'il semble utile. On parle d'autant plus de l'ultra-droite que ce que j'appelle le régime diversitaire, l'idéologie diversitaire, n'accepte pas l'idée que la principale menace soit l'islamisme ou encore une forme de délinquance conquérante telle qu'elle se manifeste aujourd'hui avec le lien assez documenté entre immigration et insécurité. Donc, pour avoir un principe d'équilibre, on doit à tout prix trouver une menace sur l'autre bord du spectre politique pour donner l'impression de ne pas être dans une logique discriminatoire. Et de ce point de vue, je pense que le concept d'ultra-droite s'éclaire aussi à la lumière de ce souci.
Alors, en même temps, on fait des amalgames, donc à nous de faire des distinctions. Génération identitaire, en effet, ce n'est pas du tout la même chose que la division Charles Martel, dont les références brunes, pour le coup, sont explicites. Et or, on a dissous, d'ailleurs, l'un et l'autre de ces mouvements. Mais j'en reviens, Jean-Yves Camus, à ce que vous disiez sur l'obsession du nazisme, l'antifascisme et l'antinazisme post-hitlérien. Maurras disait, dans l'accent française, « Ce pays n'est pas un terrain vague. Nous ne sommes pas des bohémiens nés par hasard au bord du chemin. » Et il en tirait des conclusions ouvertement xénophobes, et il allait même jusqu'à la mise en cause des quatre États confédérés, juifs, métèques, protestants, francs-maçons. Puis, après Maurras, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est-à-dire que maintenant, en effet, toute idée de maîtrise des flux migratoires est jugée par certains xénophobes et même racistes. L'antiracisme devient le principe ultime de la gauche actuelle. C'est pas la lutte de classe, c'est un antiracisme et un antiracisme à spectre très large. Et c'est étonnant parce que, lisant Maurras, j'ai pensé à un texte que vous connaissez peut-être, de Michael Walzer, Sphère de justice, philosophe américain, grand philosophe politique, tout à fait ancré à gauche, hein, revue Dissent, etc. Et il dit ceci, « Si toutes nos rencontres ressemblaient à des rencontres sur la mer, dans le désert ou sur le bord d'une route, il n'y aurait pas d'appartenance à distribuer, on ne se demanderait jamais quelle politique d'admission suit, voyez ?» Ça rappelle, en fait, la phrase de Maurras. Or, il dit, tel n'est pas le cas. L'admission et l'exclusion sont au cœur de l'indépendance de la communauté. Sans elle, il ne pourrait pas y avoir de communauté de caractère historiquement stable, des associations d'hommes et de femmes, spécialement engagées les uns avec les autres, et ayant un sens spécifique de la vie en commun. D'où, dit-il, la nécessité pour l'État de revendiquer l'autorité nécessaire à la politique de sa propre politique d'admission, au contrôle et parfois à la restriction des flux migratoires. Abattre les murs de l'État, continue Walzer, ce n'est pas créer un monde sans murs, mais plutôt créer un millier de petites forteresses. Voilà comment pense un philosophe de gauche, mais on a l'impression que, justement, adossé à l'antimaurassisme et à la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, toute une partie de la gauche ici ne veut pas en entendre parler. C'est l'antiracisme qui compte, et l'antiracisme, finalement, ça devient un sans-frontiérisme. Et voilà où nous en sommes, c'est-à-dire de l'ultra-droite à l'extrême-droite, et l'extrême-droitisation de l'idée même de souveraineté nationale. Qu'en pensez-vous, Jean-Yves Camus ?
J'en pense à peu près ce qu'en pense Pierre-André Taguieff, qui s'est intéressé le premier à ces questions dès les années 80. Il y a à gauche deux courants qui me semblent antinomiques. Le premier qui effectivement considère que les appartenances nationales, ethniques, religieuses sont une sorte de fardeau dont il faut se débarrasser pour arriver à un homme universel qui n'est qu'un homme de valeur abstraite. Et puis, il y a de l'autre, des gens, j'en suis, qui pensent effectivement, et je vais pousser la provocation jusqu'au bout, que ce pays n'est pas un terrain vague. Mais que le drame de la phrase de Maurras, c'est que il ne parlait pas des flux migratoires, il voulait extirper de la communauté nationale des gens, les protestants, les francs-maçons, les juifs, qui étaient là de mémoire millénaire, et qui, de fait, étaient d'excellents Français. Mais ça n'est pas parce que la phrase de Maurras était suivie par des choses qui sont effectivement abominables. Et ça n'est pas parce qu'un disciple de Maurras nommé Raphaël Alibert édicte en tant que garde des Sceaux le statut des Juifs en 1940 que l'ensemble de la réflexion maurrassienne doit passer par perte et profit. Parce qu'effectivement, lorsque je me déplace, moi, quelque part, dans un pays étranger, je suis confronté à un choc des cultures. Si je souhaite m'y établir, je vais devoir maîtriser la langue, je vais devoir maîtriser les codes, je vais devoir suivre un processus administratif qui va faire de moi le citoyen du pays en question. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas normal que nous procédions de même ?
Oui, mais alors justement, Maurras parlait de gens enracinés dans le sol de France, et en même temps, dans les années 30, il y avait un nombre important d'immigrés juifs dont on ne voulait pas. Et c'est adossé à ce souvenir ou à ce traumatisme que certains aujourd'hui refusent toute politique de restriction de l'immigration. Mathieu Bock-Côté.
En fait, je crois qu'on doit surtout éviter de se tromper d'époque. Et ça, un enjeu, sur votre formule que vous reprenez souvent, c'est la seule exactitude que vous empruntez, je crois, à Peggy. Nous ne sommes plus des contemporains de la Deuxième Guerre mondiale, non plus que des années 30. Et les questions qui se posent à nous aujourd'hui, le drame, c'est que devant l'immigration massive, devant une renaissance d'une pulsion totalitaire qui me semble indéniable, ça, nous les lisons exclusivement à la lumière du traumatisme, par ailleurs fort compréhensible, de la Deuxième Guerre mondiale et des années 30. Mais les catégories qui relèvent de cette époque ne permettent plus de saisir les temps présents. Et je vais donner un exemple en lien avec ce que vous avez parlé d'extrême droitisation. Moi, je me méfie beaucoup de cette tentation effectivement d'extrême droitisation. L'extrême droitisation est la forme aujourd'hui contemporaine de la disqualification morale et médiatique pour marquer un désaccord total avec quelqu'un, en fait pour l'exclure du périmètre de la respectabilité médiatique. On a oublié qu'on a retenu les années 30 une matrice idéologique qui nous contamine encore aujourd'hui, celle-là, pour, véritablement, c'est l'antifascisme. Alors, l'antifascisme, il faut le rappeler, n'a jamais consisté à lutter contre le fascisme. Ça, on est tous d'accord avec ça. L'antifascisme consistait à assimiler au fascisme toute forme d'opposition au communisme ou au socialisme à l'époque.
Oui.
Et de ce point de vue, aujourd'hui, l'anti-extrême-droitisme, appelons ça comme ça, consiste à assimiler à l'extrême-droite toute forme d'opposition aux nouvelles innovations idéologiques de la gauche, appelons ça aux préférences idéologiques de la gauche du moment, et puisque notre époque est diversitaire, toute forme d'opposition au déploiement du régime diversitaire, toute forme d'opposition à l'immigration massive, toute forme d'opposition à cette idée de déconstruction systématique des normes anthropologiques ou culturelles d'une société, on l'assimilera à l'extrême droite, qui devient une catégorie dont la définition change sans cesse, mais qui a pour fonction chaque fois de marquer du sceau de l'infréquentabilité ceux qui ne se contentent pas d'apporter quelques nuances à l'idéologie dominante, mais en contestent les fondements.
Alors, vous dites d'ailleurs dans votre livre, Mathieu Bock-Côté, ce n'est pas l'extrême droite, entité politique fantasmatique et catégorie indéfinissable qui menace notre démocratie, mais bien plutôt l'usage que le régime diversitaire fait du concept d'extrême droite pour frapper d'interdit, censurer ou fasciser toute forme de dissidence. On vous dira, Mathieu Bock-Côté, que la promotion tous azimuts de la diversité n'est pas un régime. Ce n'est pas non plus un mode de pensée hégémonique ni même dominant. C'est une façon de voir en passe de devenir minoritaire face au Figaro, à Valeurs Actuelles, à l'Empire Bolloré, Europe 1, le Journal du Dimanche, CNews, dont vous êtes un des chroniqueurs les plus en vue. Que répondez-vous l'un et l'autre à cette critique ? Après tout, dit-on, l'idéologie dominante, c'est celle que vous représentez et non pas celle que vous attaquez.
Oui, je connais cette théorie. Je vous répondrai en deux temps. Moi, je réponds sur la question du régime politique. Alors, qu'est-ce qu'on voit partout dans le monde occidental aujourd'hui ? On voit donc, du point de vue du régime, je ne parle pas de pression morale, de pression médiatique, je parle de lois. Les lois sur la haine, entre guillemets, qui se multiplient en Irlande, en Écosse, au Canada bientôt, un peu partout dans les pays de l'Union européenne. Ces lois sur la haine aujourd'hui assimile aux propos haineux, je le disais, toute remise en question de l'idéologie diversitaire. Là, on ne parle pas de pression morale, on parle de loi. On parle de pénalisation juridique. On parle de l'extension du domaine de l'interdit dans le domaine public. Et là, je le dis, la haine, encore une fois, on est tous contre la haine, hein, d'accord, c'est bien être contre la haine. Mais le fait est que la haine est ainsi définie aujourd'hui comme une remise en question des revendications minoritaires ou minoritaristes ou des revendications diversitaires. Et ça, c'est une extension du droit. Je note, soit dit en passant, que dans les entreprises aujourd'hui, dans le monde occidental, partout, partout. Il y a des séances de rééducation qui sont imposées aux employés. Et je dirais, plus l'entreprise est grande et plus ces séances sont nombreuses, où vous devez, par exemple, participer à des séances de rééducation sous le signe de la théorie du racisme systémique ou de la théorie du genre. Et si vous ne participez pas à ces rencontres, ou si vous osez exprimer la moindre réserve par rapport à ça, votre existence professionnelle est potentiellement compromise. Les conséquences peuvent être nombreuses. De la même manière, l'extrême droitisation du désaccord sur l'immigration fait en sorte que toute forme d'opposition de fond au mouvement migratoire aujourd'hui est nazifiée ou fascisée. On l'a vu encore tout récemment en France. Or, lorsque vous décidez de nazifier ou de fasciser un point de vue, vous n'êtes pas en train d'expliquer que c'est un point de vue avec lequel vous êtes en désaccord, mais avec lequel on peut parler. C'est le retour de la bête, c'est le retour de la bête immonde. Et encore une fois, je précise que c'est l'idéologie dominante. Et vous connaissez probablement mon obsession là-dessus. Vous avez évoqué l'émergence de quelques médias qui, pour ce que j'en sais, sont des médias privés par ailleurs, qui remettent en question l'idéologie dominante. Mais vous connaissez probablement ma formule là-dessus. La gauche était si longtemps hégémonique qu'il lui suffit d'être contestée pour se croire assiégée. Et la droite était si longtemps dominée qu'il lui suffit d'être entendue pour se croire dominante. C'est le double quiproquo qui structure la vie publique aujourd'hui.
Oui, mais alors, j'en reviens quand même à ce concept d'extrême droite. On parle beaucoup aujourd'hui d'un regain du populisme. Je sais que c'est un mot fourre-tout, voire un mot valise, mais quand même, ne peut-on pas s'inquiéter, par-delà les partis Reconquête ou le Rassemblement National, d'une montée de l'anti-élitisme ? Un anti-élitisme farouche qui a conduit, par exemple, un chroniqueur à définir le docteur Raoult comme le vengeur masqué de la France d'en bas. Et au moment du Covid, on a annoncé Big Pharma. Et qu'y avait-il pour certains derrière Big Pharma ? Jacques Attali, voire les Rothschild. Et on a aussi beaucoup parlé des Rothschild et du pouvoir des Rothschild.
De George Soros,
au moment des Gilets jaunes, République française, devenue sur une tribune des Gilets jaunes, République française, Rothschild Family. Donc tout cela quand même existe, tout cela monte, sans compter ce qui se passe aussi à l'extérieur de nos frontières, notamment en Pologne. À Pologne, il y a quelques jours, c'est Amnousz Szalmani qui l'a montré l'autre jour sur LCI, un député polonais a envahi le Parlement avec un extincteur d'incendie pour arroser un chandelier
pour
les fêtes de Hanouka. Et il a dit, c'est une religion satanique. Donc tout cela existe, et n'est-ce pas imputable à l'extrême droite.
Je voudrais, avant de parler du populisme, si vous le permettez, je voudrais revenir sur l'extrême droite. L'extrême droite est une catégorie scientifique. C'est aussi un terme qui, historiquement, a été employé maintes fois. La première occurrence que j'en ai trouvée date de 1820, et à l'époque, ce terme est utilisé par les royalistes qui suivent Louis XVIII pour désigner ce qu'on appelle communément les ultras, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas apprécié que la charte soit une charte constitutionnelle. Vous savez qu'elle est octroyée par Louis XVIII, comme sous l'Ancien Régime, mais que parallèlement, elle est constitutionnelle parce que Louis XVIII et ses partisans savent qu'il n'est pas possible de revenir à la société d'ordre et qu'il faut incorporer un certain nombre des tropes de 1789 et des années suivantes. Donc ce terme d'extrême droite, il a une existence en dehors de la polémique. Il est repris ensuite par le grand historien orléaniste Paul Durand-Nangin, académicien, qui écrit une histoire de la Restauration, où il décrit justement l'opposition de l'extrême droite au ministère Villèle, etc. Là où ça devient beaucoup plus intéressant, c'est que effectivement, on a un débat dans le monde académique, j'insiste, dans le monde académique, qui est le lieu où doivent se débattre les définitions de l'extrême droite, sur la cette catégorie extrêmement plastique. Et là se pose un problème. Est-ce qu'on considère que le label accordé à un parti, la famille politique dans laquelle on le place, est choisi en fonction de ce qu'est un parti au départ ? C'est par exemple la forme de pensée qu'on retrouve chez Stanley Rokan, Un parti socialiste est un parti socialiste est un parti socialiste. Il a beau évoluer, il restera dans la case parti socialiste. Un parti fasciste est un parti fasciste est un parti fasciste. Ce qui veut dire que le Front National de 1972, fondé effectivement par des gens qui avaient revêtu l'uniforme allemand, reste un parti fasciste ou néo-national-socialiste, alors même que la réalité du Rassemblement National de 2023 est depuis longtemps totalement différente. Donc c'est une catégorie effectivement fourre-tout, elle a été affinée ces dernières années par un certain nombre de mes collègues, notamment par le politiste néerlandais Cas Mudde, qui est sans doute le meilleur d'entre nous, et qui distingue désormais l'extrême droite et son opposition principielle à la démocratie libérale, son utilisation souvent de la violence, son racisme biologique, et puis d'un autre côté, la droite radicale. La droite radicale qui, par ailleurs, peut être populiste.
Ah.
Qui peut être populiste. Ne l'est pas toujours.
Non, mais...
Parce que les populismes, et c'est là l'intérêt du livre de Mudde sur le populisme que j'ai fait traduire en français, c'est qu'il existe aussi une tradition populiste de la gauche radicale.
Oui.
Tout le monde connaît les théories de Chantal Mouffe et d'Ernesto Laclau sur la nécessité de réinstaurer du clivage, de réinstaurer du conflit, et donc de remettre au cœur du débat politique l'opposition entre le peuple et les élites.
Oui. Très bien. Mais justement, cela étant, moi, je parlais d'un populisme diffus.
Celui qu'on a vu pendant les Gilets jaunes.
Pendant les Gilets jaunes.
Oui. Voilà. Alors, permettez-moi deux distinctions en matière. Je réponds d'abord à votre question sur le populisme, mais je répondrai aussi, si vous me permettez, sur l'extrême droite. Le populisme, la critique des élites. Mais il arrive, par ailleurs, je ne dis pas que c'est toujours le cas, que certaines élites doivent être critiquées. Il arrive, à l'échelle de l'histoire, que certaines élites aient fait faillite dans leurs responsabilités. Le gaullisme de 1958, de ce point de vue, est un anti-élitisme virulent, mais remplacer une élite jugée décadente par une autre. Il est légitime de juger à certains moments donnés qu'une élite a fait faillite, et de ce point de vue, donc, la nécessité d'une élite est présente dans toute société. Mais on peut, si je critique très sévèrement aujourd'hui, par exemple, la caste eurocratique, ce n'est pas parce que je rejette l'idée qu'il faille une élite, je dis que celle-là est fondamentalement toxique, par exemple. Sur l'extrême droite, je pense qu'il y a une chose importante à dire. Si vous dites, Jean-Yves Camus, que c'est un concept scientifique, je me permettrais de dire que vous dites que c'est dans l'université que ces choses-là se passent. Je constate, hélas, que c'est un concept qui, trop souvent, même à l'université, l'université étant ce qu'elle est aujourd'hui, très idéologisée, les 10 spécialistes de l'extrême droite sont normalement des militants qui nous invitent à nous mettre en garde contre elle en toutes circonstances. Ce que je peux comprendre, vu la définition qu'ils nous semblent nous en proposer. Mais, deux choses. La première, c'est que les définitions sont à ce point nombreuses et contradictoires que j'en suis venu à dire que, fondamentalement, pour certains, l'extrême droite est une catégorie dont ils ont besoin, en toutes circonstances, quelle que soit la définition qu'ils en donnent, pour nommer le mal politique à notre époque. Premier élément. Et deuxième élément, pour moi, le concept d'extrême droite ne se pense, évidemment, c'est presque naturel, que dans le clivage gauche-droite. Or, comment se compose le clivage gauche-droite? Il ne faut jamais l'oublier. La gauche s'autoproclame gauche et renvoie à droite ce dont elle ne veut pas. Et donc la droite, ce qu'il fait, elle est d'abord un rassemblement de parias. Et ensuite, j'insiste sur ça, il y a donc deux catégories à droite. Il y a la part de la droite qui va toujours être en quête de respectabilité par rapport à la gauche. C'est ce que j'appelle une gauche qui est 15 minutes en retard. Hein, c'est la gauche pâle. C'est la gauche au ralenti. Et donc ça, c'est la droite républicaine, la droite respectable, parce qu'elle accepte les conclusions de la gauche tout en demandant de fonctionner à son rythme. Et ce que la gauche nomme extrême droite, c'est cette part de la droite qui n'accepte pas d'évoluer dans le périmètre de respectabilité qu'elle fixe, et elle extrême droitise la part de la droite qui la conteste frontalement.
Extrême droitisation, je comprends très bien. Je reprends à mon compte ce concept. Mais deux questions à vous deux. Comment qualifier l'héritage de, ou même la pensée, ou la doctrine de Maurras, par exemple, ou de Barrès? Le nationalisme intégral, vous le placez où?
Mais voilà.
C'est pas la gauche qui le définit, ça. C'est lui qui se définit et qui a été dominant. Le nationalisme intégral en France a été... dominant.
Mais Alain Finkielkraut, vous avez raison, mais je me permets de vous répondre sur ça justement. Comment le qualifier? Bien, le nationaliste intégral. Vous savez, le socialisme, le communisme, le libéralisme, le conservatisme, le fascisme, ce sont des catégories qui ont été chaque fois revendiquées. Nationalisme intégral a été revendiqué.
Oui.
Or, le problème de la catégorie d'extrême droite, c'est qu'elle n'est jamais revendiquée. C'est une catégorie que l'on cherche à accoler, mais qui n'est jamais revendiquée. Donc, de mon point de vue, une bonne sociologie politique, une bonne cartographie politique aurait d'abord pour fonction de dégager les doctrines du besoin obsessionnel de les positionner sur l'axe gauche-droite. Et le maurrassisme, vous l'évoquez, bon, c'est le maurrassisme, premièrement, le terme est là. Ensuite, c'est un nationalisme intégral, parfait, il est là. Il y a une composante antisémite, indéniablement. Mais si vous utilisez le concept d'extrême droite pour parler de ça, et ensuite on l'utilise, quoi qu'on en dise, dans les médias pour parler de Marine Le Pen, mais on en parle aussi pour qualifier de temps en temps François Xavier Bellamy. N'oubliez pas qu'on l'a utilisé pour parler ensuite de Fabien Roussel. Et on l'a utilisé même pour parler de Jean-Luc Mélenchon, sans oublier Emmanuel Macron qui s'est fait pinochettiser par Jean-Luc Mélenchon. Ce concept commence à être un peu trop large pour être utile.
Jean-Yves Camus.
Vous savez, moi je reste très à l'écart de tout ça. Je reste dans le cadre de l'étude scientifique d'un phénomène qui effectivement est défini par certains de mes collègues d'une manière infiniment trop extensive, mais enfin, Mathieu Bock-Côté, les gens qui, à l'université, produisent sur le sujet ne sont pas tous d'affreux gauchistes.
Ni
Pascal Perrineau, ni Pierre-André Taguieff, ni à l'étranger, la plupart des auteurs, ou américains ou allemands, je pense à Uwe Backes, qui est un libéral tout à fait classique, et à quelques autres, et même à des gens d'ailleurs, qui ont été à un moment donné des acteurs de la droite radicale. Je pense à mon ami Marco Tarchi en Italie, ou à Lothar Rebelt, qui en Autriche produit des choses très intéressantes sur le FPE, tout en étant président de l'Académie scientifique du FPE, donc en étant engagé. Je veux dire, ce n'est pas le monopole de la gauche que d'étudier l'extrême droite. C'est par contre le monopole, hélas, de la gauche de faire de cette catégorie une réminiscence du fascisme et de mettre le fascisme à toutes les sauces, ah même oui, là ça, où il ne doit pas d'accord. être.
Mais alors, j'ai une question à poser. Je reviens au Gilet jaune, je reviens au populisme. Quand on lit un tweet qui s'est retrouvé en une du site national du mouvement des Gilets jaunes en 2018, l'État français, avec l'aval des États-Unis et la juiverie, ont hésité à perpétuer un attentat le 17 novembre. Alors, on dit quoi ? C'est quoi ?
Mais c'est l'antisémitisme.
Non, mais est-ce qu'on peut pas penser que... Enfin, comment dire, ça évoque la France juive de Drummond et la dénonciation, justement, de ces juifs qui, depuis l'émancipation, ont assuré leur mainmise financière sur la France. Alors, est-ce que ça s'inscrit pas dans cette tradition? Est-ce qu'il ne serait pas légitime de placer Édouard Drummond à l'extrême droite?
Ben alors, on est un peu dans une position circulaire, parce que je dis ce concept me semble inadéquat. J'essaie d'expliquer pourquoi. Ensuite, si vous me demandez si de tels propos s'inscrivent dans la tradition drummondienne, manifestement. Est-ce qu'il s'agit d'un discours antisémite? Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais j'y reviens dès lors, et je ne dis pas ça par simple souci de faire des catégories trop fines. Dès lors que vous inscrivez cela dans la logique dite de l'extrême droite, hein, ce concept qui, je le redis à mon avis, n'a aucun fondement ni scientifique ni descriptif. Pour moi, l'enjeu est quand même là. Donc dès lors que vous...
Qui disent le contraire.
Ben alors, ça dépend. Premièrement, pas tous. Et ensuite, il y a, chez les scientifiques que vous avez évoqués tantôt, il y a un instant, je pense à l'un d'entre eux, il nous dit, ah, c'est les croisés de la société fermée contre la société ouverte. Ça, ce sont des concepts moraux. Ce ne sont pas des concepts descriptifs, ou appelons ça objectifs ou scientifiques.
Ça, c'est un choix d'éditeur sur un titre.
Ben, ça, à tout le moins, c'est le titre de l'auteur dont vous nous avez parlé.
De quel auteur?
Pascal Perrineau. Pascal Perrineau, qui est un politologue de qualité, mais dont les travaux ne me semblent pas exempts de charges morales ou idéologiques. Bon, par exemple. Mais, j'y reviens. Le concept d'extrême droite, dès lors que vous l'utilisez, eh bien, il faut ensuite se demander, quand on parle par exemple du RN aujourd'hui, de Reconquête, mais aussi de l'aile droite DLR, et puis on peut aller encore plus loin, le Brexit, Nigel Farage, et Donald Trump, pourquoi pas. Eh bien, je constate que ce concept, il est chaque fois utilisé pour décrire tous ces gens. Donc, si vous êtes à la recherche d'une extrême droite originelle, véritable, repérable, qui serait le nationalisme antisémite révolutionnaire toxique, parfait. C'est ça votre définition d'extrême droite? Très bien. Mais ensuite, je vous retournerai la question et je vous dirai de tous les partis dont je vous ai parlé, de tous les acteurs dont je vous ai parlé, sont-ils d'extrême droite?
Ah,
et
ben
je...
ça, c'est très intéressant.
Et je crois que vous allez être obligé de me répondre non pour oui. Marine Le Pen.
Oui.
Pour Reconquête.
Oui.
Alors, si vous dites publiquement que ni Reconquête ni le RN ne sont d'extrême droite, vous venez de faire éclater tout le système de classification politique français.
Alors, ce système de classification, il nous renvoie quand même à ce que j'appellerais l'équivoque de la démocratie et le remplacement du débat par le tollé, qu'il s'agisse du féminisme, de l'immigration ou du mariage pour tous. Parce que la démocratie n'est pas seulement une forme sociale ou politique, c'est aussi une force, une dynamique, un processus que Tocqueville, subjugué et terrifié, appelait le développement graduel de l'égalité des conditions. Il disait c'est le fait générateur des sociétés modernes. Et la seconde définition ne complète pas la première, elle la contredit. Parce que la forme, c'est en effet le déploiement d'une intersubjectivité. La force, c'est la maturation d'un sujet. La forme, c'est l'humanité comme conversation. La force, c'est l'humanité accédant progressivement à elle-même. La forme est interrogative, la force est téléologique et assertive. Et donc, il y a en effet des cavaliers du processus qui se conçoivent en quelque sorte comme les représentants du parti de l'universel et qui sont impatients de voir s'établir le monde de la reconnaissance achevé, mutuellement égalitaire. Ils vivent donc sous le double régime du scandale et de l'évidence. Scandale du partage entre gens d'ici et gens d'ailleurs, évidence du semblable. Scandale des frontières, évidence du mélange. Scandale de l'idée de spécificité européenne, évidence de l'Europe des droits de l'homme. Et le tribunal médiatique, qui est justement un quart de la démocratie comme dynamique, comme processus, comme le tribunal de salut public, fonctionne sans avocat de la défense. On l'a vu tout récemment à l'émission C'est ce soir, à propos de Gérard Depardieu. C'était très impressionnant. Et donc, en effet, il y a quelque chose d'assez inquiétant dans cette idée d'une démocratie en marche, parce que l'adversaire est un réactionnaire, celui qui s'accroche au passé, et donc, en effet, il n'y a plus de dissensus légitime.
Il doit y avoir un dissensus légitime, et il doit y avoir un débat. Moi, ce qui me frappe chez beaucoup de ceux qui étudient les populismes, guillemets, l'extrême droite, guillemets, c'est qu'ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas l'adversaire parce qu'ils supposent que l'adversaire n'a rien à dire ou que ce qu'il dit est réductible à une sorte de succédané du fascisme. Or, il existe, dans cette catégorie qui nous est imposée, des auteurs remarquables, des gens qu'il faut lire, parce que si vous ne lisez pas l'adversaire, d'une part, vous entérinez l'idée qu'ils sont exclus de la communauté nationale, et d'autre part, vous êtes absolument contraint de dire que ces auteurs que vous ne lisez pas ne font que répéter ce qui était avant, et ce qui était avant, ce sont effectivement les fascistes et les nationaux-socialistes. Moi, je plaide effectivement pour que toute personne qui ose parler de Maurras comme ancêtre de l'extrême droite, pour Édouard Drummond, c'est un peu plus difficile à lire, mais lise Maurras. Lise Maurras et lise à la suite Jean Madiran, Pierre Boutan et tous ceux qui ont actualisé sa doctrine. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, d'une part, vous ostracisez définitivement tous ceux qui se réclament encore d'une manière ou d'une autre d'une partie de la doctrine de Maurras, et d'autre part, vous prouvez que vous n'êtes pas capable de traiter de manière scientifique et intellectuelle la question dont nous venons de parler. Le tribunal médiatique, si vous voulez, moi de plus en plus, j'en viens à m'en abstraire. C'est-à-dire que je deviens, quelque peu disciple de Junger, peut-être sans le savoir, en me disant que le recours aux forêts n'est pas une si mauvaise solution.
Disciple de Junger, vous allez aggraver votre cas.
Mais le tribunal médiatique, dont vous avez raison de tout faire pour vous extraire assurément, existe. Or, il y a deux. Je reviens un instant sur la nécessité du débat. Vous, Jean-Yves Camus nous dit il faut débattre avec ces gens qui écrivent, ainsi de suite. Mais on nous explique aujourd'hui, c'est un élément important dans ce qu'on pourrait appeler les études universitaires sur ce qu'ils appellent l'extrême droite, c'est qu'ils nous expliquent qu'on ne doit surtout pas prendre au sérieux les arguments qui sont avancés. C'est la théorie de la vraie nature ou du masque. C'est-à-dire, vous auriez la vraie nature de la bête, l'extrême droite, le fascisme, ainsi de suite, et tous ces arguments ne serviraient qu'à masquer cette vraie nature et donner une apparence de rationalité démocratique, une apparence de rationalité administrative. Dès lors, quand vous êtes devant une personne étiquetée à l'extrême droite, vous ne devez pas répondre à ces arguments, vous devez dévoiler sa vraie nature. Démasquer. Bon, premièrement. Et deuxième élément, qui me semble assez important, vous dites, la Finkielkraut avec raison, le plaidoyer pour la conversation civique éclairée. Rappelez-vous, c'est une séquence qui se passe il y a quelques mois à peine. Hugo Clément, qui est invité à débattre avec Jordan Bardella dans la grande soirée de Valeurs actuelles. Scandale à gauche, on dit comment peut-il accepter de débattre, un, avec Bardella, et deux, chez Valeurs actuelles.
Qui est exactement Hugo
Clément. Hugo Clément, chroniqueur écologiste très présent sur le service public. Et là, il y a une émission qui est organisée sur la 5. Je me permets de le mentionner parce que c'est fondamental. Et le débat qui est proposé aux gens, c'est écologie. Doit-on en parler avec l'extrême droite? Mais le problème, c'est qu'eux, ils nomment extrême droite Marine Le Pen, faut pas l'oublier. Marine Le Pen qui a fait 42% aux dernières élections présidentielles. Donc, le service public, avec les fonds de tous les contribuables français, nous propose un débat où on explique qu'on ne doit pas débattre avec les représentants d'environ 42% de la population. Je m'excuse, mais c'est une vision terriblement sectaire et fanatique et régressive de la démocratie. Je vois cela, et si on nous explique qu'on ne doit pas débattre avec 42% de la population, rappelez-vous au moment de la présidentielle, il y a eu une séquence un peu étrange en janvier 2022, où on se disait, Mélenchon, dans ce cas-là, Zemmour et Marine Le Pen risquent de ne pas avoir leur signature. Et certains donc pourraient pas participer au débat. Et là, on voit, dans les médias, on entend plusieurs dire, c'est plutôt une bonne nouvelle, finalement. Parce que les candidats anti-républicains, donc factieux, ne seraient pas présents au débat de la présidentielle. Quelle étrange notion de la démocratie où on décide de congédier les représentants d'environ la moitié de la population. Et c'est le paradoxe de la démocratie libérale et du fameux état de droit aujourd'hui, c'est que c'est au nom de la démocratie libérale dont je me veux le partisan le plus sincère, mais c'est paradoxalement dans une conception falsifiée de la démocratie libérale qu'on veut exclure, non seulement du périmètre démocratique, mais quelquefois même du droit, la figure même du contradicteur. Et tout ça au nom de la démocratie. C'est étrange.
Alors, ce refus de parler avec le Rassemblement ou les représentants du Rassemblement national se fonde sur l'idée que ce parti n'a pas changé, que ce changement n'est rien d'autre qu'un ravalement de façade, qu'il est resté le même. Donc, le parti de la bête immonde. Ça me fait penser à cette phrase de Nietzsche, qui vit de combattre son ennemi a tout intérêt qu'il reste en vie. Mais là, vous êtes un spécialiste, Jean-Yves Camus. À votre avis, y a-t-il eu un véritable changement? Pas simplement un changement de nom, mais entre le parti fondé par Jean-Marie Le Pen et le parti aujourd'hui qui a réuni 42 ou 43% d'électeurs à la dernière présidentielle.
Posons d'abord les choses ainsi. Même lorsque le Rassemblement national était Front National, même lorsqu'il y avait encore en son sein des gens, je les ai connus et je peux les nommer, qui avaient collaboré, qui avaient porté l'uniforme allemand, à partir du moment où ce parti faisait 15% des voix à l'élection présidentielle, il était nécessaire de débattre civiquement. Il était nécessaire d'argumenter.
Donc Chirac a eu tort de refuser d'argumenter avec Jean-Marie Le Pen.
Il était dans une position tout à fait particulière. Il a jugé qu'il était mieux de ne pas débattre, mais m'étant jamais trouvé dans la même position que lui, j'ai pris très rapidement le taureau par les cornes et je me suis dit, nous n'allons pas pouvoir déconstruire l'argumentaire du Front National, en ne rencontrant jamais ses électeurs, en ne rencontrant jamais ses cadres et ses militants et en ne lisant pas ses publications. Et en fait, ce qui m'a toujours paru indispensable, et ce qui reste indispensable, c'est de parler avec eux de la France. De quelque point de vue qu'on se place, et le mien est celui d'un juif observant, plutôt catégorisé à gauche, donc il n'y a pas grand-chose à voir, a priori, avec cette famille politique-là. Mais moi, je veux leur parler de la France parce que ce sont mes compatriotes.
Mais est-ce qu'ils ont changé, quand même?
Alors, est-ce qu'ils ont changé? D'abord, la contradiction est... pour moi, a toujours été féconde. J'ai tiré beaucoup de mes débats des années 90, peut-être plus d'ailleurs que des débats de maintenant, parce que le Front National était dans les années 90 un parti plus idéologique, où il existait encore des traditions idéologiques très affirmées. Il y avait encore des monarchistes qui avaient connu l'Action française d'avant-guerre. Il y avait des gens qui avaient participé aux putsch des généraux. Il y avait des gens qui avaient participé à la collaboration ou à la résistance, d'ailleurs. Aujourd'hui, le parti est un peu anesthésié au point de vue de sa vitalité idéologique. Et oui, il a effectivement muté. D'abord parce qu'un parti politique ne peut pas, pendant plus d'un demi-siècle, être sourd et aveugle à ce qui se passe dans le monde et rester campé sur ses positions d'avant. Ensuite, parce que pour un certain nombre de questions, il est évident, sauf pour les sourds et les aveugles, que Marine Le Pen, sur la Shoah, ne pense pas la même chose que son père, dont je n'ai jamais totalement démêlé, par ailleurs, même après conversation avec lui, pourquoi il s'était politiquement tué par sa déclaration sur le point de détail. Donc, nous avons aujourd'hui des marqueurs. Chaque année, le 16 juillet, jour de la commémoration de la rafle du Veldiv, Marine Le Pen fait un tweet. Dans ce tweet, elle prend acte du fait et elle dénonce le fait que des Juifs ont été déportés avec la complicité du gouvernement de l'époque. On ne va pas la nazifier contre toute évidence. Elle n'est ni antisémite ni négationniste, de toute évidence. Et par rapport à la notion de race, elle n'affirme pas, contrairement à son père, je crois en l'inégalité des races. Qu'il existe ensuite, au fond d'une section de province du Rassemblement National, quelqu'un qui soit encore raciste, antisémite, négationniste, peut-être, mais d'abord ça n'est pas le monopole du Rassemblement National.
C'est clair.
Hein, mais ça n'est pas clair pour tout le monde. Donc oui, effectivement, c'est un parti qui a changé, c'est un parti qui se distingue encore des autres par un élément clé de son programme qui est la priorité nationale. Voilà.
Oui, mais la priorité nationale, c'est quand même... Là, on en revient à Michael Walzer. Après tout, Michael Walzer défend d'une certaine manière la priorité nationale. Mathieu Bocoté.
Alors, je fais partie de ceux qui croyaient, qui généralement acceptaient l'idée que le FN, version Jean-Marie Le Pen, avait été une fois pour toutes mis de côté, diabolisé, comme on dit, à cause des déclarations justement de Jean-Marie Le Pen sur le point de détail, et ainsi de suite. La fille Le Pen, Marine Le Pen, a condamné ces déclarations et les a condamnées à un point tel
qu'elle
l'a exclue de son parti. C'est pas rien. Or, la diabolisation continue. Donc là, se pourrait-il qu'aujourd'hui, je dis pas à l'époque, mais aujourd'hui, la diabolisation ne porte pas sur les déclarations passées de Jean-Marie Le Pen, 1987 quand même, ensuite il les a reprises, bien sûr. Mais est-ce que la diabolisation ne se fonde pas tout simplement sur l'idée que c'est un parti qui rejette le principe de l'immigration massive? Est-ce que le vrai critère qui sert à disqualifier aujourd'hui, ce n'est pas... Si vous vous opposez à l'immigration massive, dès lors vous serez extrême-droitisé. Et on le voit un peu partout en Europe. Lorsque vient le temps de marquer du sceau de l'infréquentabilité un parti, c'est sur cette question. Et je note que Marine Le Pen, à quel moment, c'est une question que j'ai déjà eu l'occasion de poser dans le cadre d'un débat à quelqu'un, à quel moment on va décider de la croire? Moi, j'ai pas une passion immodérée pour elle, loin de là. Je suis très critique à son endroit. J'ai beaucoup de réserves à son endroit, mais j'essaie de comprendre pourquoi elle devrait être à jamais marquée du sceau de l'infréquentabilité. Est-ce qu'il n'est pas possible d'y voir une adversaire parmi d'autres dans un jeu politique où elle représente un segment de la nation? Tout simplement, est-ce qu'il est nécessaire de la maudire pour la contredire?
Si vous êtes dans la théorie du masque, oui. C'est-à-dire que précisément, vous dites c'est à cause de ses positions sur l'immigration, mais non en fait, c'est à cause de cette théorie que Pierre-André Taguieff avait déjà dénoncée dans les années 80, il s'agissait alors de la Nouvelle Droite et d'Alain Benoît, selon laquelle on impute à quelqu'un qui pendant 50 ans écrit des choses différentes de ce qu'il a écrit dans sa jeunesse, on lui impute le fait d'être ou machiavélique à un point remarquable ou schizophrène. Et on dit, oui, mais il écrit blanc, mais en fait, il dit noir.
Mais voilà.
Il écrit ceci, mais il pense le contraire.
Mais c'est pourquoi je pense que la théorie du masque, dont je parle dans mon bouquin, est un des principaux obstacles pour comprendre la nature des acteurs politiques aujourd'hui. Moi, j'évite...
Bien évidemment.
J'évite, quand on entend le RN ou Reconquête, ou quel que soit le parti d'ailleurs... J'invite simplement à ce qu'on les prenne au sérieux. Ils nous disent quelque chose, je tiens pour acquis qu'ils ne sont pas occupés à nous mentir pour nous dire le contraire de ce qu'ils nous disent, et c'est vrai pour tous les partis, j'insiste. Ou alors on applique la théorie du masque à tous. Mais puisque, manifestement, on est dans une forme de mystique antifasciste, où on est incapable de s'affranchir de cette mystique dans notre lecture des événements politiques, mais on se condamne à combattre des fascistes alors qu'ils n'en existent plus, et le péril totalitaire qui vient sous plusieurs visages, celui-là, on ne le regarde pas parce que nos catégories mentales sont périmées.
Mais alors, il est vrai que toute remise en cause du laxisme migratoire est aujourd'hui, dans une certaine presse en tout cas, imputée à l'extrême droite. Et quand la droite va dans ce sens, on dit qu'elle-même devient d'extrême droite. Alors il est vrai que c'est sur la question de l'immigration, ça il me semble que Mathieu Bocoté a raison, que les choses se cristallisent en quelque sorte aujourd'hui.
Jean-Yves Camus. Pas uniquement sur la question de l'immigration, c'est sur la question de la citoyenneté, c'est sur la question de savoir si être français est simplement, comment dire, le fait de vivre ici et d'acquérir une citoyenneté française qui ne suppose pas la maîtrise de l'ensemble des codes, la maîtrise parfaite de la langue, et la volonté de s'assimiler. C'est ça le vrai problème. C'est pas simplement est-ce qu'on ouvre les frontières ou pas. C'est la nature même du contrat qui fait nation.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est, je dirais, toute définition non abermassienne de la nation aujourd'hui.
Abermas.
Le philosophe allemand qui nous propose.
Procédural.
Oui, strictement procédural, le patriotisme
constitutionnel.
Donc toute définition substantielle de la nation. Je ne dis ni ethnique, ni raciale. Je dis substantielle. Donc culturelle et historique, fondamentalement. Toute définition historique et culturelle est extrême droite. droitisé. Et le grand écart que l'on peut documenter aujourd'hui, hélas, entre la nationalité juridique et la nationalité administrative, ce simple constat qu'on doit faire parce qu'on a reçu une immigration plus nombreuse que celle qu'on pouvait assimiler, dans un cadre où le système d'assimilation lui-même ne fonctionne plus, ce simple constat est assimilé, encore une fois, à l'extrême droite. Donc, vous voyez, c'est la catégorie centrale qui, dans les faits, empêche toute réflexion, un tant soit peu nuancée et élaborée, sur l'immigration, sur l'identité, sur la démocratie.
Je pense que les yeux sont en train de se dessiller et qu'il y a tout de même un débat qui commence à émerger, notamment sur cette question de la citoyenneté administrative. Je constate par ailleurs que la gauche radicale qu'incarne Jean-Luc Mélenchon est actuellement, je ne sais pas si c'est un plancher, mais en tout cas, les sondages la donnent à 14%. C'était évidemment plus au moment de l'élection présidentielle. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer parce qu'il y a des évidences. Les Français comprennent effectivement l'évidence qu'est la multiplication des attentats islamistes radicaux. Ils comprennent aussi par les sondages qu'il y a une fraction de la communauté musulmane pour qui un concept aussi central que le concept de laïcité est vu comme une attaque inacceptable. Et que nous dit le sondage récent? C'est qu'au fond, pour un certain nombre de gens qui vivent dans notre pays, ils ne peuvent pas se retrouver dans cette laïcité.
Bah écoutez, on terminera sur ce constat. En effet, Jean-Yves Camus, je vous remercie tous les deux. Je rappelle Mathieu Bock-Côté, le titre de votre livre, tout à fait passionnant, « Le totalitarisme sans le goulag ». Ce livre est publié aux presses de la Cité. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation Nathalie Salle, à la technique aujourd'hui Benjamin Reyes. La semaine prochaine, nous rediffuserons l'émission du 3 avril 2021, Mémoire croisée, avec Jacques Julliard et Pierre Nora. Le samedi 30 décembre, nous rediffuserons La vie avec un chien, avec Claude Usinger et Cédric Sapin de Four. Et l'émission reprendra le samedi 6 janvier avec la 5e République de Mitterrand à Macron. Mes invités seront François-Olivier Gisbert et Jean-Louis Bourlange. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.